Bonjour, bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous dominical de France Inter, de France Info, à la télé, en partenariat avec le journal Le Monde, celui qui va nous accompagner jusqu'à 13h et candidat à l'élection présidentielle, ancien ministre de l'économie. Il a par deux fois quitté la vie politique et par deux fois, il y est revenu certain d'avoir un destin présidentiel. En 2011 et en 2016, il est éliminé de la course lors d'une primaire. Il a décidé cette année de se lancer directement et assure que rien ne le fera dévier de sa trajectoire. L'homme qui a très tôt, peut-être trop tôt, défendu la 6ème République, la démondialisation et le Made in France voit-il aujourd'hui les planètes s'aligner, la remontada qu'il promet à la France doit d'abord passer par la sienne dans les sondages qui montrent une gauche faible et divisée. Arnaud Montebourg, c'est lui. Et jusqu'à 13h, l'invité de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Négaroff sur France Inter.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour.
Je ne serai pas le seul à vous poser des questions avec moi, comme chaque semaine, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Françoise Pressos du Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Karine Bécard de la rédaction de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Et tout à l'heure, Alexandra Bensaï nous rejoindra pour les questions d'économie. Vous pouvez, ceux qui nous écoutent ou nous regardent, poser des questions ou partager des remarques gentilles sur les réseaux avec le hashtag.
Pas sûr que ce soit gentil.
Question Paul. Arnaud Montebourg, vous rentrez de Frangy. Vous avez, comme chaque année, hier fêté la rose. Il y avait du monde.
Il y avait du monde.
Il y avait de l'enthousiasme. Est-ce qu'on revient avec plus de motivation que jamais pour se dire que c'est le moment ?
C'est le début d'une campagne. Les Français, cette année, qui ont été échaudés par les quelques quinquennats qui viennent de s'écouler, ils ont fait confiance à des chefs de parti, ils ont fait confiance à une personne qui semblait exceptionnelle et qui a enveloppé par sa séduction le pays. Les Français écoutent les propositions. J'ai vu qu'il y avait une enquête qui montrait que 75% d'entre eux attendaient de connaître le projet, ce qu'on voulait faire avec eux. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'attache à ce travail. C'est le respect dû au débat démocratique et à l'esprit républicain que de s'adresser à tous les Français et de leur faire bien sûr des propositions, mais pas seulement, mais d'adresser la cohérence d'une vision. C'est ce que je me suis employé à faire à Clamecy, ma ville natale, dans la Nièvre, sous-préfecture de la Nièvre, et hier à Frangy, où j'ai été une nouvelle fois invité. Frangy en Bresse, une fête de la rose que j'ai fréquentée pendant 15 ans.
Pas toujours avec bonheur.
Avec bonheur, on a eu des moments de fracture. Vous semblez rappeler dans
la cuvée du redressement, absolument.
C'est pas la cuvée, c'est le discours de Frangy. Ouais. Le discours de Frangy était un discours de rupture avec le gouvernement auquel j'appartenais, de fracture sur les lignes politiques de l'austérité.
Et donc vous ne le regrettez pas ?
Je crois que j'ai été cohérent avec mes orientations, mes choix. Mes positions, elles sont assez connues, elles viennent de loin, elles sont assez rectilignes aussi, elles n'ont pas vraiment varié, et elles sont devenues majoritaires aujourd'hui. Quand vous regardez ce que donnent les enquêtes d'opinion sur ce que veulent les Français, et d'ailleurs même les Européens, vous voyez que ce que j'ai défendu depuis maintenant 20 ans est central, majoritaire.
Et ben on va essayer de confronter.
C'est la légitimité de ma candidature d'ailleurs.
On va essayer de confronter tout ça à l'actualité parce que c'est la rencontre d'un homme, d'un programme et aussi d'un moment. Alors justement, on va commencer avec une page internationale. J'aimerais vous faire écouter Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il était cette semaine au micro de Yael Gauz sur France Inter.
Je pense que Joe Biden a compris que avec nous, l'Europe ne cherchait pas un grand frère, mais un partenaire. Maintenant, il faut travailler. C'est pour ça qu'on renvoie notre ambassadeur. C'est pas simplement par plaisir. Non, on n'est pas dans les slogans. On n'est pas là à dire l'alliance franco-américaine, etc. On veut des actes. Notre ambassadeur, il retourne là-bas pour travailler.
Arnaud Montebourg, président de la République, il renvoie l'ambassadeur de France aux États-Unis.
Enfin, écoutez, c'est un coup de poignard dans le dos. Un affront national, un contrat à 56 milliards, on annule un dîner de gala, on convoque, on rappelle l'ambassadeur pour 48 heures et il repart aussitôt dans le premier avion, on fait un communiqué pour dire on est amis. Les Américains, comme disait Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, dont j'approuve les propos, doivent payer le prix politique.
C'est-à-dire
d'abord, prix politique.
Allez-y, quel prix politique ?
D'abord, est-ce que les États-Unis sont encore nos alliés ou sont devenus nos adversaires sur cette affaire-là ?
En tout cas, ce sont des concurrents déloyaux. On n'en est pas à faire des catégorisations. Nous savons ce que nous devons aux États-Unis, mais nous voyons, si je résume les quelques dernières années, le droit extraterritorial américain qui nous a volé Alstom, Energy, qui d'ailleurs a infligé des amendes scandaleuses sur certaines de nos banques,
BNP
et pas que, d'ailleurs des banques françaises, y compris allemandes, sans aucune réaction de l'Union européenne. Quand je vois que D'après les révélations d'Edward Snowden, qui n'ont pas été contredites, 75 millions de nos conversations ont été écoutées par une agence d'espionnage qui, normalement, devait s'intéresser au terrorisme et finalement est devenue l'allié dans la compétition, dans la guerre économique que les États-Unis mènent, y compris à leurs propres alliés, c'est-à-dire nous-mêmes. Et maintenant, le coup de poignard australien. Je crois que ça fait beaucoup. Je pourrais vous parler d'autres questions encore.
Oui, mais donc, c'est un adversaire ou pas ? C'est quoi, aujourd'hui ?
Ben, Madame Descartes, en tout cas, c'est un concurrent déloyal, aussi déloyal que le chinois, que la concurrence chinoise.
Ah, vous les mettez sur le même pied d'égalité.
Pour moi, nous avons maintenant à construire la troisième voie.
Alors attendez, on fait quoi pour l'instant ? Dans votre discours de Frangis, vous mettez en cause Emmanuel Macron en considérant qu'il est trop proche d'un certain nombre de milieux d'affaires, de consultants américains pour pouvoir faire le ménage. Clairement, après ce qui s'est passé avec les sous-marins, vous,
alors,
chef de l'État,
j'ai fait des propositions.
Vous faites quoi ?
J'ai fait des propositions, je vais essayer de les exprimer. Je les ai faites sur une chaîne de radio-télévision et je les ai rappelées hier dans le discours de Frangis. Il faut prendre des mesures de représailles pour que les Américains nous respectent. Les premières consistent pour moi à écarter de toute l'activité des grandes entreprises stratégiques et de l'État tous les grands cabinets du Conseil américain, c'est-à-dire les banques d'affaires, les cabinets d'avocats et les Big Four, c'est-à-dire les cabinets comptables. C'est McKinsey, White & Case et Goldman Sachs, en gros. Oui, j'ai dit hier que l'essentiel de ces cadres dirigeants, qui avaient profité d'ailleurs de toute la vente à la découpe de grandes entreprises françaises, nos fleurons, Technip, Alstom, Alcatel, ils sont dans tous les deals, tous ces gens-là. C'est eux qui profitent de façon sonnante et trébuchante de la destruction des fleurons français. Mais ils ont aussi une autre caractéristique qui a été relevée par Olivier Marleix, le président de la commission d'enquête sur Alstom. Il a relevé que ceux qui avaient profité en honoraire de la destruction d'Alstom sont ceux qui ont financé Monsieur Macron. Et je note, car il y a maintenant des articles qui le montrent, que McKinsey a quasiment remplacé l'administration et l'intellect, le cerveau de l'administration française, je le note, et que, par ailleurs, ces mesures seraient à la fois salutaires vis-à-vis des Américains, mais surtout salutaires vis-à-vis du président de la République, car je considère que ces cabinets ont acheté, en quelque sorte, leur droit de connaître nos secrets. Puisque en fait, ils sont à l'intérieur de l'appareil d'État.
C'est Emmanuel Macron complice ou victime ?
Auteur. Il est auteur de tout cela, puisqu'il fait travailler McKinsey dans sa campagne, dans l'administration.
Emmanuel Macron, donc, c'est quand même grave comme accusation.
Mais c'est pas une accusation, c'est un fait.
Accusation avec l'ennemi. Si on pose jusqu'au bout ce qu'on entend, c'est ça.
Ou je crois que le moment est venu de dire les choses. Nous ne sommes pas dans un monde, j'allais dire, lénifiant. Comme dirait le vocabulaire courant de bisounours. Nous sommes dans une guerre économique. Et là, c'est vrai, Madame Bécard, nous avons des adversaires qui nous font du mal.
Est-ce que nous avons encore des alliés ? Parce que quand on vous entend parler...
Nous avons normalement, Madame, des alliés européens qui ne sont jamais au rendez-vous.
Donc,
alliés
ou pas ?
Mais nous sommes aujourd'hui dans une restructuration du monde, avec une conflictualité mondiale qui s'impose, un chaos qui est quand même réel et menaçant, et donc nous avons à penser notre stratégie.
Alors justement,
et la raison de la remontada de mon projet, c'est une vision stratégique pour la France qui vise à restructurer nos alliances. Au sein de l'Union européenne, nous avons besoin de l'Union européenne, mais aussi, il y a tous les autres qui ne sont ni dans l'orbite chinoise, ni dans l'orbite américaine.
Alors, on rentre dans le détail de cette troisième voie que vous préconisez.
Très gaullien sur les...
Est-ce que la troisième voie...
C'est une signature du général de Gaulle, c'est vrai. C'est lui qui a inventé ce terme.
Est-ce que cette troisième voie, on la fait tout seul, avec nos bras, ou est-ce qu'on construit des alliances, et comment on fait pour incarner ça ?
Mais par exemple, je voudrais vous donner un exemple pour répondre directement à votre question. D'abord, l'image de la France et de ses petits bras, j'en ai assez d'entendre ça dans la bouche des journalistes. Voilà. C'est une minoration de ce que nous sommes. La France est très attendue, elle a un vocabulaire universel, elle a un code génétique universel, elle parle au reste du monde. Je peux vous dire, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde, elle est entendue,
écoutée.
Oui, mais
écoutée. C'est antinomique avec ce que vous dites, où vous parlez d'effondrement, où vous dites qu'on n'est plus...
Écoutez, chère madame, je sais pas ce qui est antinomique, je pourrais reprendre beaucoup d'antinomies dans vos propres articles, et je vous en ferai pas le procès, laissez-moi vous expliquer ce que je veux faire.
Et voilà.
La troisième... Non, mais les antinomies, tout le monde en a, et vous la première. Et d'ailleurs, ça vous rend estimable, parce que c'est le propre
de l'humain.
C'est sympa quand même. C'est vrai, mais c'est le propre de l'humain. Il est une chose et son contraire, et c'est la recherche de l'équilibre. Donc, en fait, la troisième voie, c'est quoi ? C'est que vous avez d'un côté un capitalisme anglo-saxon à dominance américaine extrêmement prédateur, et de l'autre, un capitalisme chinois autoritaire et, j'allais dire, lui aussi dominateur. Donc comment on va faire pour ça? On a besoin de l'Europe, c'est évident. Mais on va pas rester tout seul. Il y a tous les autres. C'est ça mon champ de reconstruction. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai proposé, je suis allé à Lannion. À Lannion, c'est là que les dernières usines Alcatel ferment. J'ai fait une proposition avec des industriels français. J'ai dit, voilà, j'ai un plan pour reconstruire un nouvel Alcatel. Comme j'en ai un pour Nouveau Pechiney, Nouvel Alstom, reconstruire un nouveau plan. Sur des nouvelles règles. Et notamment sur des règles de 5G qui seraient originales et qui nous permettraient, comme quand on avait fait avec nos petits bras, si je reprends votre expression, le GSM, qui fut un code mondial de communication, eh bien, je propose que nous ayons nos règles propres qui nous permettraient de trouver des alliés dans le reste du monde qui ont très envie d'avoir autre chose que Huawei ou les Américains. Et tout le monde cherche la solution qui ne soit pas, j'allais dire, soit dans l'orbite de l'un, soit dans l'orbite de l'autre. Ça n'exclut pas que nous ayons de bons rapports avec les Chinois et les Américains, mais ça suppose que nous construisions la troisième voie.
Mais vous êtes certain qu'on réussit à avoir ses propres règles aujourd'hui dans un monde ultra-mondialisé qui est effectivement malgré tout détenu, enfin organisé, structuré, alors, imposé, dominé par les États-Unis et
la Chine. Vous savez, la guerre froide, c'était encore plus dur, hein. Et il y a des dirigeants politiques qui ont dit, ben, on va équilibrer Moscou et Washington. C'était encore plus dur, parce que là, c'était militaire. Là, c'est économique. Et la mondialisation, pour moi, elle est en train de rétrécir au lavage de la pandémie et de la prise de conscience des peuples qui veulent maintenant revenir à la nation. Donc parce que trouver... c'est là que ça se passe.
Donc on peut trouver des alliés économiques. On a encore des alliés militaires avec votre discours.
Ah, je ne propose pas, si c'est ça votre question, Madame Bécard, je ne propose pas comme ça sortir des chefs de l'OTAN.
Par exemple.
Je mets sur la table le débat. D'abord, le commandement militaire intégré, on a un bilan à faire. Après une dizaine de quinzaine d'années, qu'est-ce que ça donne, où on en est? Prenons le soin d'en débattre avec les Français, avec notre armée, qui a des choses à nous dire, avec les corps intermédiaires, les partis politiques. Moi, je pense sur une décision aussi stratégique. Ça suppose, un, la réflexion, deux, le partage de la conviction, et surtout, qu'on construise une stratégie de long terme, et non pas des coups de gueule dans une campagne électorale où on peut se permettre des facilités.
Alors, justement, à propos de stratégie à long terme, le Premier ministre malien a dénoncé ce matin l'abandon en plein vol de la France consécutif au redéploiement de la force Barkhane. J'ajoute qu'il y a un jeune caporal de 35 ans qui a été tué sur place. Qu'est-ce que vous considérez nécessaire? Qu'on se redéploie, voire qu'on se retire encore plus vite, ou vous pensez qu'on a quelque chose à faire au Mali?
Ben, on a évidemment beaucoup de choses à faire en Afrique. D'abord la développer, y participer. Les Chinois ont mis 320 milliards
donc une présence,
en Afrique d'investissement.
Une présence pour que la France... Ben, mais cette présence...
Non, mais d'investissement, des investissements, les infrastructures, les ports, les voies ferrées...
La question portait davantage sur la sécurité.
La sécurité et sur le terrorisme.
J'ai compris, mais c'est intéressant de mettre l'une en face de l'autre, parce que la France s'est retirée beaucoup de l'investissement africain, a laissé finalement les Chinois installer leur route de la soie. Et finalement, elle n'est aujourd'hui connue qu'à travers des opérations de police internationale contre le terrorisme, qui sont nécessaires. Est-ce qu'elles doivent prendre la forme de l'opération, du maintien de l'opération Barkhane et les milliers d'hommes et les pertes que nous avons
subies? Est-ce qu'on accepte de perdre des soldats? On en est à 50.
La question est posée de savoir sous quelle forme, c'est pas si on reste ou on s'en va, c'est sous quelle forme
je
cela
la pose
doit évoluer.
Vous...
Et je crois qu'il y a un consensus pour dire, je crois, hein, il faudrait le vérifier, mais je crois, qu'il y a un consensus en France pour dire que nous pouvons maintenant imaginer un dispositif allégé, beaucoup plus spécialisé à travers les forces spéciales que une armée qui, aujourd'hui, passe pour une armée d'occupation. C'est aussi ça, le problème. Et donc, qui risque finalement de provoquer ce que toutes les expéditions militaires ont provoqué. D'ailleurs, vous remarquez que les Américains sont beaucoup plus prompts à attaquer les intérêts français que réussir leurs expéditions militaires en Afghanistan, en Syrie ou en Irak. Le modèle est aujourd'hui à revoir. Et je crois que les armées, nos armées, ont cette conscience
d'ailleurs,
de la manière d'être et de se comporter en liaison avec les pays africains et aussi les pays européens qui veulent bien nous aider.
Dans votre dernier livre, vous évoquez d'ailleurs, on est en plein procès du Bataclan, ce que vous êtes en train de nous dire là, à savoir que l'intervention militaire peut avoir des effets très graves chez nous. Vous avez des propos qui ont pu pas mal choquer en disant, bah en fait, ce qui s'est passé au Bataclan ou à Charlie Hebdo, c'est la conséquence du cavalier seul de la France, ce sont vos mots, dans des zones du monde. Est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous
pouvez les expliquer? Non, j'ai pas dit tout à fait ça. J'ai dit que, c'est, évidemment, la France était mise au premier plan, mais il y a des tas de pays qui ont été attaqués par le terrorisme islamiste, qui n'ont jamais participé à ces opérations. Donc, soyons raisonnables. J'ai dit, la France s'est exposée beaucoup plus que d'autres, c'est vrai, et ces expéditions militaires, il faut toujours les décider la main tremblante. Regardez le résultat de la Libye. Et à l'époque, il y avait un mandat de l'ONU, d'ingérence, pour sauver le peuple, un devoir de sauver. Regardez le résultat. Le résultat, c'est qu'on a installé le terrorisme dans tout le Sahel, que les armements qui étaient dans les casernes libyennes sont entre les mains maintenant de milices islamistes terroristes qui déstabilisent toute la zone. Donc nous voyons bien que il faut savoir raisonner sur les conséquences de nos décisions politiques. D'ailleurs,
François Fassos.
Une bonne partie de votre projet est fondé sur l'idée qu'il faut reprendre la main en France, et parmi les propositions que vous faites, c'est de dire que le Parlement français devrait avoir le droit de corriger le droit européen qui constitue 60% de nos lois domestiques. Alors, pour le moment, les traités européens, j'ai l'impression, sont plus importants que nos lois nationales. Elles s'imposent à nous. Comment reprenez-vous la main? Est-ce que vous faites un référendum? Est-ce que vous avez l'accord du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous ouvrez un bras de fer avec l'Europe? Est-ce
et
que
avec
vous
l'Allemagne.
Assumez ce bras de fer? Comment vous faites?
Alors, merci de votre question. Ça me permet de préciser ma proposition que j'ai déjà exposée dans mon discours de candidature, parce qu'elle est centrale. D'ailleurs, c'est une des propositions qui a été à chaque fois les plus applaudies par le public en nombre. Et c'est intéressant parce que c'est ma proposition de référendum pour une république nouvelle, que on peut appeler sixième ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Je considère que l'Union européenne devrait faire son travail de nous protéger contre les empires. Le réchauffement climatique, nous sommes une colonie numérique des États-Unis d'Amérique, elle ne bouge pas le petit doigt.
Il y a au moins une prise de conscience.
Mais non, mais on n'a pas besoin de prise de conscience, puisque nous sommes nous-mêmes conscients. On a besoin de mesures de démantèlement des GAFA. Vous savez, vous allez en Chine, il n'y a pas de GAFA. Vous allez en Russie, il n'y a pas de GAFA. Il y a plein de pays où ils ont décidé de prendre la décision d'écarter Google.
Concrètement, le chemin.
J'y viens. Je voudrais juste expliquer ma vision. Si je peux développer. Je sais que c'est difficile, mais je vais essayer de le faire.
Vous allez vivre avec nous.
Nous avons besoin d'une Europe qui soit portée sur la protection en haut et qui nous fiche la paix en bas. En gros, elle nous oblige à démanteler nos barrages, c'est nous qui les avons construits, c'est les nôtres, de quoi se mêle-t-elle, à démanteler EDF. EDF, c'est un service public extraordinaire qu'on a mis dans cette situation très difficile, c'est inadmissible. Quand on sauve Air France, elle se permet de dire, vous avez le droit de mettre 7 milliards sur Air France, mais on va enlever des créneaux d'atterrissage et de décollage au profit de vos concurrents, les compagnies low-cost anglo-saxonnes. Donc en fait, on a le droit de sauver Air France à condition qu'on lui rogne les ailes. Ça suffit. Donc pour moi, l'Union européenne doit s'occuper non pas de la vie domestique, Orly c'est chez nous, les barrages c'est chez nous, EDF c'est nous, de notre vie domestique, mais qu'elle s'occupe du monde qui va mal et qui nous menace.
Comment on y arrive?
Et les autres pays européens sont d'accord avec vous? Enfin, vous avez des alliés pour réussir
mais,
à faire
mais
ça ou
pas? Je n'en suis pas là, madame, je ne vous demande pas d'alliés. Je propose dans un référendum, si je suis élu président de la République, voilà. Les Français me jugent apte à remplir cette haute fonction. Difficile, mais importante. Je dois vous dire que la première décision que je prendrai, c'est d'engager un référendum qui restructurera les conditions de la gouvernance et du pouvoir dans ce pays tel qu'on l'exerce, qui est excessivement solitaire et qui peut tourner à l'autocratie, nous avons quelques exemples sous la main, mais surtout qui donnera au Parlement le dernier mot sur tout le droit issu des institutions européennes.
Mais ça veut dire qu'au sein de l'Union européenne,
je vous explique ce que ça veut dire.
Je vous écoute.
60% de nos lois sont d'origine européenne. Et il y a presque aucune marge de manœuvre, possibilité de les transformer. Donc quand des lois européennes...
Votées par des gens élus par des Français quand même.
Non, parce que la Commission européenne n'est pas élue par les Français. Le Conseil, oui. le Conseil européen, il est élu par 27 pays. Après, ils tambouillent entre eux en secret.
Non,
je suis désolé. C'est un 27e, le représentant des Français. Donc, désolé. ça n'est pas la démocratie. Et donc, pour moi, j'essaie. Je sais que vous êtes bouillant et impatient.
On a plein de questions à vous poser.
Oui, mais je voudrais quand même d'abord pouvoir l'exposer. Puis après, vous reviendrez. Laissez-moi finir. Donc, je voudrais dire que quand le Parlement aujourd'hui prend une décision, il est obligé de se conformer au traité de par la Constitution. Je veux réformer ça, la Constitution donnera le dernier mot
au Parlement. Mais est-ce que vous êtes sûr de pouvoir agir par référendum ? Au fond, est-ce que le Conseil constitutionnel vous autorise ?
Mais le Conseil constitutionnel n'a pas à se mêler d'une décision d'un président de la République. Le référendum de 1962 a créé une jurisprudence qui permet de construire un référendum sans passer par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs,
en s'appuyant sur le peuple, c'est
sur le mandat populaire que j'aurais reçu des Français. Donc, c'est exactement ce qu'a fait le général de Gaulle. Et je ne vois pas pourquoi ce qu'a fait le général de Gaulle, un de ses successeurs ne pourrait pas le faire.
On est assez loin de la
sixième république. Et à partir de là, ça veut dire que nous allons retrouver ce que moi j'appelle la subsidiarité. Exemple. Prenons un exemple. La directive travailleurs détachés, qui organise un dumping social à domicile. Voilà. Qui autorise finalement la concurrence déloyale en employant des travailleurs de l'Est qui sont moins payés et qui sont par ailleurs qui ne cotisent pas aux caisses sociales alors qu'ils travaillent sur notre sol. Eh bien, le Parlement français pourra dire, eh bien, nous ne l'appliquons pas.
En fait, c'est qu'ils vont un Frexit, c'est-à-dire que vous affranchissez des règles et donc.
Alors, Madame Fressoz, je vais juste vous dire une chose pour montrer, excusez-moi, l'inanité de ce que vous venez de dire.
Pardon.
Ça arrive à tout le monde.
Mais je reconnais.
Inanité, ça veut dire qu'il n'a pas de contenu. Jusqu'en 1989.
C'est sympathique.
Jusqu'en 1989. L'Europe fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que finalement, le Parlement, en dernier ressort, pouvait corriger des décisions européennes.
Depuis, on est en 2021. Mais surtout, en fait.
Ça veut dire que pendant 40 ans, on a construit l'Europe comme ça. Et je vais vous dire, elle n'en est pas morte. Elle a bien fonctionné. Par ailleurs, c'est exactement ce qu'a proposé Michel Barnier. Il a proposé ça sur l'immigration. Moi, je propose en tout domaine, car le Parlement est souverain et il doit prendre ses décisions de façon souveraine. Et puis, par ailleurs, c'est aussi, d'une certaine manière, ce que Valéry Giscard d'Estaing, dans la Convention sur l'avenir de l'Europe, est proposée sous la forme de subsidiarité. Tout ce qui nous concerne, nous décidons. Tout ce qui nous concerne collectivement, et notamment ce que moi j'appelle l'Europe d'en haut, eh bien, l'Europe est souveraine. Donc ce partage-là, vous voyez, c'est comme ça qu'on va le faire, de façon unilatérale. Et puis j'ajoute, cerise sur le gâteau, pour montrer que votre propos était excessif, Madame Fressoz, c'est que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe lui-même prend des décisions rappelant la souveraineté nationale monétaire de l'Allemagne. Alors, donc les pays membres et les États-nations n'ont pas disparu. Et je vais vous dire, il est hors de question qu'elles disparaissent, parce que c'est comme ça que l'Europe disparaîtra. Parce qu'on aura essayé de mettre tout le monde sous la toise et que personne n'aura réussi à trouver sa place.
Mais vous dites unilatérale.
Karine Bécard, on va juste devoir un tout petit peu avancer sur ce, même si c'est passionnant l'Europe. Une dernière question d'actualité du jour. L'Allemagne vote aujourd'hui. Angela Merkel va quitter le pouvoir après 16 ans à la tête de son pays. Un concert de louanges accompagne son départ. Mais je me souviens que vous, en 2011, vous l'aviez qualifié de Bismarck. Vous l'accusiez de défendre les intérêts allemands en imposant, je vous cite, l'ordre économique et financier des conservateurs allemands à tout le reste de l'Europe. Est-ce que 10 ans plus tard, vous la voyez partir avec soulagement ?
D'abord, je n'ai pas exprimé un tel propos. J'ai repris le propos de son vice-chancelier.
Oui, mais enfin...
Monsieur... Non, son vice-chancelier.
Non, mais vous l'avez pris à votre compte.
Non, je ne l'ai pas repris à mon compte. J'ai cité quelqu'un, Monsieur Zniegarov. Je suis désolé, ça s'appelle la rigueur. Peut être rigoureux à cette chaîne, quand même. J'ai dit, il y a quand même son vice-chancelier, Sigmar Gabriel, vice-chancelier d'Allemagne, c'est-à-dire son numéro 2, qui a dit, c'est Bismarck. Donc, excusez-moi, je me suis permis de dire que... parmi nos amis et partenaires allemands, il y a quand même un peu de réaction. Ceci dit, je considère que Madame Merkel a bien défendu son pays. Voilà, elle a bien défendu son pays. Je ne sais pas si elle a défendu l'Europe, mais elle a bien défendu l'Allemagne. Moi, je préférerais que la France défende un peu moins l'Europe, se sacrifie moins pour la construction européenne et défende un peu plus la France.
France Inter. Question politique. Thomas Negaroff.
Alors, défendre la France économiquement, ça fait partie effectivement de vos grands sujets d'intérêt et d'analyse. Et Alexandra Ben Saïd nous a rejoint pour la partie économie.
Bonjour Madame Arnaud Montebourg.
Bonjour.
Bienvenue sur ce plateau. On parle d'économie, on l'a déjà fait souvent. On parle encore de l'Europe. Si je comprends bien, ce que vous voulez faire, c'est quand même faire le tri dans les règles européennes, dans le champ économique en particulier. En fait, vous citiez Michel Barnier, mais finalement, vous faites un peu comme la Hongrie et la Pologne, sauf que vous, c'est l'écho. Mais vous savez très bien que si on ouvre, vous avez été ministre de l'économie, si on ouvre la SNCF à la concurrence, c'est parce qu'on fait rouler nos Ouigo en Espagne, nos Transdev en Allemagne, et puis EDF, il est présent en Italie, il a fait des emplettes. Donc, Arnaud Montebourg, si la France devient protectionniste au sein de l'Europe et s'affranchit des règles, franchement, qu'est-ce qui vous permet de ne pas avoir peur des représailles très concrètes sur les entreprises françaises ?
Mais je vais vous dire, ce n'est pas forcément protectionniste. Ce seront les majorités parlementaires qui se succéderont, qui diront « ça, c'est inacceptable ». Et donc, ça veut dire tout simplement que le Parlement aura un point d'appui dans la renégociation de tous les textes qui sortent à jet continu de l'Union européenne et qui ne subissent aucun contrôle démocratique. Il ne faut pas y voir, d'ailleurs, j'allais dire une forme d'apocalypse européenne, pas du tout. Simplement, c'est une forme de restructuration de l'Union européenne par une décision unilatérale d'un peuple qui décide d'affirmer sa souveraineté et qui est un des grands fondateurs. Et je vais vous dire, je pense que tous les peuples en ont envie.
Mais
européens.
Vous savez bien
même
que
les Allemands le font, ils le réaffirment eux-mêmes. Donc je vais vous dire, ça se fera par petites touches. On dira, bah, écoutez, nous, ça, ce texte, il est inacceptable,
on ne
l'appliquera pas.
Mais il y a pas de petites touches en Europe, monsieur Montebourg.
Eh bien, moi, je pense qu'il y en a. Il y en a sur tous les textes, il y en a beaucoup trop. Et d'ailleurs, la Commission européenne arrêtera de nous sortir des directives. Dans la mesure où elle verra qu'il y a trop de résistance du côté des pays membres, et elle se consacrera à ce qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire les grandes questions mondiales sur lesquelles aujourd'hui nous avons besoin de l'Europe. Nous n'avons pas besoin de l'Europe qui nous explique ce qu'on doit faire tous les jours avec EDF. Excusez-moi, Madame Bensaïd.
Donc, le fait que EDF
aille à l'étranger ne pose aucun problème. Moi, j'ai besoin qu'on ait un service public qui fonctionne.
Bon, vous pensez que ça fonctionne. Moi, j'appelle ça du protectionnisme européen.
Mais c'est très bien.
Je suis pour
le protectionnisme.
Donc vous faites ceci, vous êtes aussi celui qui veut donc écarter les cabinets de conseil américains. Vous voulez nationaliser les autoroutes, ça veut dire casser des contrats. Aujourd'hui la France...
Comment ça, casser des contrats ?
Ça veut dire casser des contrats, nationaliser des autoroutes.
Ben, ça veut dire que...
On a un contrat de concession
avec les sociétés d'autoroutes. Ça veut dire que les contrats de concession, quand ils sont déséquilibrés, et pour moi ils sont illégaux, enfin pas que pour moi, il y a beaucoup de professeurs de droit qui les ont expertisés de cette nature, ils sont déséquilibrés, ils sont illégaux, donc il faut les arrêter d'urgence. Donc moi je casse pas des contrats qui sont légaux, je casse des contrats qui sont déséquilibrés et illégaux.
Vous savez ce qui s'est passé avec Ségolène Royal, quand elle a essayé de geler le tarif des autoroutes, les sociétés... Les sociétés sont allées en justice,
mais
et finalement l'État a plié.
À l'époque, c'était il y a maintenant 10 ans, les contrats étaient encore, j'allais dire, valables, et elle a voulu situer dans le cadre des contrats. Mmh. Là, les contrats ne donnent lieu à plus aucune indemnité. Vous savez pourquoi ? Parce que les concessionnaires ont gagné tellement d'argent qu'ils ont déjà amorti en 2022, 10 ans avant la fin de leur concession, leurs investissements. Et l'État n'a pas le droit de payer un concessionnaire. Oui, c'est pas que l'avocat, c'est l'ancien ministre. N'a pas le droit.
Ça se fera en justice, cependant.
Ça
se discutera devant un tribunal si vous faites
ça. C'est pour ça que ça va nous coûter 300 000 euros les frais d'honoraires d'avocat.
Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on a entendu.
Les 40 milliards, c'est si on applique le contrat. Mais Monsieur Le Maire, qui a négocié pour son premier ministre, a été directeur de cabinet de Monsieur de Villepin, qui a privatisé les autoroutes. C'est lui qui a négocié le contrat des autoroutes avec son premier ministre. Et il nous dit, on l'a privatisé pour 14 milliards et il nous explique maintenant ça coûterait 40 milliards. Franchement, il faut qu'il arrête d'être ministre de l'économie s'il en est là. Parce que là, défendre les Français de cette manière me paraît un peu curieux.
Mon point est néanmoins que vous touchez aux règles européennes, vous sortez les cabinets américains, vous cassez les contrats avec les sociétés d'autoroutes. Aujourd'hui, la France, c'est quand même le premier pays qui attire les investissements étrangers en Europe. Et le premier pays étranger qui investit chez nous, ce sont les Américains. Est-ce que là, cet État jacobin que vous êtes en train de décrire, qui reprend la main sur son économie, va séduire les investisseurs ?
Je vais vous dire, il va séduire surtout les investisseurs français, parce que ça veut dire que construire une économie sur la base d'investissements étrangers qui viennent et qui s'en vont n'est jamais très solide. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand on a vendu Alstom à General Electric, tout le monde a dit c'est formidable, Monsieur Cron, tout un tas de gens, on allait dire formidable, les Américains investissent chez nous. Mmh. Bah oui, c'est ça que ça voulait dire. Et ils ont fait quoi ? Ils ont détruit, ils ont fermé, ils ont démantelé. Et ils ont même fait migrer les sièges sociaux qui restaient en France. Donc moi, je vais vous dire une chose. Je réponds à votre question, Madame Metzaïd. Attendez, c'est un sujet très intéressant. C'est que construire une économie sur la séduction des investisseurs, Regardez-nous où nous en sommes, c'est ce que nous faisons depuis 20 ans. Regardez-nous où nous en sommes, nous sommes la lanterne rouge industrielle de l'Europe. Nous nous sommes dépassés par l'Angleterre et l'Espagne, qui étaient des pays qui avaient du retard dans l'industrialisation. Nous sommes à 11% de part industrielle dans la richesse nationale.
On va en parler,
les Italiens sont à 19, les Allemands à 23, et nous on est à 11. Donc ça marche pas.
Alstom. Juste une question, Alstom, en ce moment EDF justement est en train de regarder comment il peut racheter les activités nucléaires à Belfort, sont les turbines à Rabel. Vous faites quelle lecture? On a vendu à General Electric et là EDF est en train d'essayer de racheter.
Je fais la lecture de l'opportunisme.
Vous étiez contre, c'était votre combat personnel.
J'en fais la lecture de l'opportunisme électoral de Monsieur Macron. Monsieur Macron, c'est celui qui a signé la vente d'Alstom à General Electric. Il l'a vendu il y a 8 ans et maintenant il la rachète. Quel génie! Alors donc, fallait pas vendre. Alors pourquoi il l'a fait? Voilà, c'est tout. Alors, entre-temps, on a perdu Belfort, on a perdu des emplois, on a perdu des marchés, on a démonté une boîte magnifique. Voilà ce qui s'est passé. Donc la responsabilité, ce que moi j'appelle, qui est une forme de destruction du Made in France. D'ailleurs, les œuvres complètes du président de la République sont quand même la destruction du Made in France. D'ailleurs, le dernier événement, c'est Ariane. Il y a eu un accord passé avec le gouvernement allemand de déménagement de nos emplois sur une technologie de 50 ans d'investissement public en Allemagne. Donc maintenant, c'est le déménageur du Made in France. Fait le Made in France en Allemagne, monsieur Macron.
Macron, le déménageur du Made in France.
C'est tout à fait choquant. 600 emplois à Vernon qui vont sauter.
Je voudrais vous faire écouter, vous étiez le ministre du redressement productif.
Merci.
Je voudrais vous faire écouter l'actuel ministre de l'Industrie, c'est Agnès Pannier-Runacher, sur ce sujet.
Arnaud Montebourg, c'est celui qui écrit bien le scénario, mais qui a jamais tourné le film.
Oh.
C'est-à-dire qu'il a des très bonnes intuitions, rien à dire, simplement, juste un chiffre. Quand il était ministre de l'économie, on a détruit plus de 70 000 emplois industriels.
Agnès Pannier-Runacher, l'actuelle ministre de l'Industrie. Bon, ce qu'elle dit en clair, c'est que la remontada industrielle, Emmanuel Macron est en train de la faire, et qu'on n'a pas besoin du comeback d'Arnaud Montebourg.
Ben, écoutez, je vais vous dire... Pourquoi je considère que le macronisme a été très nuisible pour l'économie française? C'est la fin d'Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge, Suez. Regardez Suez. Le prochain, c'est Engie, dont le démantèlement a commencé. Et voici maintenant Ariane, qu'on coupe en morceaux. Donc, si vous voulez, je trouve ça incroyable qu'on vienne nous expliquer que on défend le Made in France.
Il va y avoir un plan de relance de 100 milliards avec un volet industriel.
Les plans de relance,
que feriez-vous de mieux? Il va y avoir un plan d'investissement de 30
milliards. Madame Ben Saïd, le premier plan de relance, c'est de garder ce qu'on a avant de le laisser détruire. Premièrement. Deuxièmement, j'ai laissé à l'époque 34 plans industriels sur la table quand je suis parti. M. Macron m'a remplacé. Je lui avais dit. Ça doit maintenir. Il les a abandonnés, il les a mis à la poubelle. Là-dedans, il y avait des choses, il y avait peut-être pas, tout n'était pas réalisable rapidement, mais il y avait des choses, par exemple, le moteur à 2 litres pour nos constructeurs automobiles. On l'aurait aujourd'hui, ça serait extraordinaire. Tout ça a été abandonné, il y avait un plan batterie, il a été abandonné, puis après, on s'est dit, ah bah tiens, on a oublié les batteries, donc maintenant on va refaire des batteries électriques. On a perdu 8 ans. Alors, en vérité, il est là le sujet, c'est que moi je considère qu'on a besoin d'une politique transpartisane. C'est-à-dire où on se met d'accord politiquement sur la remontada industrielle, c'est-à-dire, et tous les partis, quels qu'ils soient, les dirigeants, mènent toujours la même politique.
Alors
sur
justement,
ce sujet-là.
Avec qui ?
Pourquoi ? Parce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Donc les à-coups, je ferme parce que mon prédécesseur ne me convient pas. Moi, je suis désolé, je suis passé après M. Estrosi et j'ai rendu hommage à son travail. J'ai continué ce qu'il a fait. Non. Il faut faire comme ça dans ce pays.
France Inter. Hashtag Question Paul.
Alors on aimerait ouvrir une page sur laquelle on ne vous attend pas forcément, mais qui est importante dans votre programme cette année, c'est la question de l'éducation. Françoise Fressoz a une question pour vous.
Vous insistez beaucoup dans votre discours sur le pacte républicain, et un des piliers du pacte républicain, dites-vous, c'est l'école. Pourquoi cette prise de conscience? Anne Hidalgo propose de doubler le salaire des enseignants sous un quinquennat. Est-ce que vous faites vôtre cette proposition? Et pourquoi l'école, c'est si important?
L'école, c'est le pilier de la République. C'est le point d'espoir pour les classes moyennes et populaires qui n'ont pas de capital à la maison et qui peuvent le constituer grâce à l'école. Je sais ce que je dois à l'école républicaine. Je sais ce que mes parents doivent à l'école républicaine. Si elle n'existait pas, eh bien, le pays que nous la France ne serait pas ce qu'elle est. Et d'ailleurs, les républicains des origines, je défends un peu ce retour aux sources dans certains...
Vous êtes très nostalgique, en fait, hein, dans tout votre projet.
Non,
tout.
Pas nostalgique. Ça, c'est votre vision. C'est un peu... C'est vous qui mettez ce mot. Je ne suis pas nostalgique. Je pense que nous avons un retour aux sources de la République à formuler. Et, par exemple, j'ai proposé le retour des écoles normales, qui sont intéressantes. Les écoles normales, pourquoi ? D'abord, parce qu'on a, c'est vrai, un corps enseignant aujourd'hui désespéré. Pour moi, il est maltraité. Il n'est pas correctement payé. Donc, il est normal.
Donc, on double, vous faites votre...
Je distingue entre le diagnostic et la mesure. Je vais venir à la mesure que je propose, qui n'est pas celle que vous avez citée. Donc, nous avons à reconstruire un projet, et toute l'école repose sur les enseignants. Les enseignants eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas suffisamment outillés, formés pour faire face à des nouveaux publics, faire face, y compris, à des ghettos scolaires que nous avons laissés s'installer. Et c'est
donc
très difficile.
Repasser par l'école normale, ça solutionne tous vos problèmes?
Non, j'ai pas dit que c'était la seule mesure. J'ai fait 9 propositions hier. Je prends cet exemple parce que l'école normale est intéressante. Ça permet de choisir des élèves au lycée qui deviennent tout de suite fonctionnaires et formés pour être les futurs hussards. C'est-à-dire
Vous voyez, on est dans la
hussard noire dans la République.
Voilà. Madame Fresso, si ça vous plaît pas, c'est pas grave.
Arrêtez de l'attaquer.
C'est quand même incroyable.
Non, je dis pas du tout. Je vous attaque pas du tout. Mais
c'est quand même incroyable.
Mais on est.
Ça marchait pas si mal, les hussards.
Oui.
Alors,
c'est 1913.
Alors, pourquoi vous ne trouverez pas les reconstituer? Alors, je n'ai pas que dit que cela. La formation, c'est un investissement massif dans le travail des enseignants. Le temps de travail, les méthodes de travail collectives, l'organisation du travail, ce qu'on attend d'un enseignant. Est-ce qu'on ne peut pas repasser un contrat de long terme avec les enseignants, les organisations syndicales? Et moi, je suis favorable, non pas au doublement, parce que personne n'y croit, le doublement des salaires, c'est l'équivalent, je parle sous le contrôle de Madame Ben Saïd, on a fait les comptes,
vous
c'est
faites beaucoup
60 milliards, c'est...
Sur 5 ans, hein.
Par an, en année pleine, c'est 80% de l'impôt sur le revenu. Donc on voit bien quelque chose qui n'est pas réaliste.
Nathalie,
en revanche, des hausses importantes de salaire.
Important, c'est quoi ?
Je propose déjà 10% d'augmentation du SMIC. Je pense qu'il y a un rattrapage très important à faire parce que le gel des traitements des fonctionnaires pendant 11 ans a fait beaucoup de dégâts. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de salariés du public qui se sont totalement déclassés, et particulièrement au premier rang des
professeurs. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un deal. Il y a quand même hausse de salaire et réorganisation.
Je crois qu'il faut ouvrir un contrat pour dire aux professeurs, voilà ce qu'on attend de vous. Vous savez, ils sont traités comme des exécutants alors que ce sont des cadres. Ils reçoivent des instructions ministérielles qui leur tombent dessus, avec la bougeotte permanente, des programmes, la réformite. C'est d'ailleurs l'éducation nationale, c'est ce que je regrette. C'est devenu une sorte de jouet électoral, d'objet politicien, soit pour les ministres en place, soit pour les candidats. Moi, je suis désolé, c'est un contrat qu'il faut passer avec les organisations syndicales de long terme, et un contrat sur lequel on se tient. La Finlande, la Suède, le Canada, le Japon, même l'Allemagne, qui a eu à faire une remontada scolaire. Ils ont eu un moment des chocs d'effondrement dans certains domaines. Et ils ont réinvesti. Et ils ont investi pas seulement en salaire, bien sûr. Ils ont investi aussi en formation. Former les profs, les aider, les outiller. Et aujourd'hui, on a du retard sur le sujet. Et les profs eux-mêmes le demandent. Ils disent, nous avons besoin d'être mieux armés.
Nathalie Saint-Pierre.
Arnaud Montebourg, cette fois-ci, c'est sur votre méthode que je voudrais vous poser une question. Vous parlez d'un service national civil obligatoire. Est-ce que vous considérez que c'est possible d'obliger les jeunes à faire ce genre de choses et sous quelle forme? Deuxièmement, vous considérez que pour lutter contre les déserts médicaux, il faut envoyer les étudiants en médecine dans ces fameux déserts médicaux pour qu'ils puissent s'occuper des populations. Est-ce que vous revenez à une verticalité dans la prise de décision en disant que ça vous plaise ou non? C'est comme ça. Je ne dis pas que vous avez la nostalgie du service militaire, parce que je vais me faire traiter d'inanité ou de manque de rigueur comme Thomas. Globalement, est-ce qu'il n'y a pas chez vous un côté, bon maintenant, dirigiste, vertical, c'est on va arrêter de rire, vous allez faire ça, et ça vous plaît, même si ça ne vous plaît pas?
Et quand même, on regarde un peu derrière.
Désolé si je vous ai froissé, je ne le voulais pas.
Non, je défendais ma camarade et mon camarade.
Je ne suis pas froissé du tout, vous inquiétez pas.
Mais c'était plus long.
Je vous présente des excuses.
On a le droit de rire, on est dimanche matin.
Allez-y,
je ne voulais pas du tout aller vous blesser, et je vous présente des excuses à ce titre. C'est pas du tout mon sens de mon propos. Service national, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'appelle le troisième pilier de la République.
C'est-à-dire même si les jeunes ne veulent pas ?
C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'on doit quelque chose à la France.
Ah mais attendez, moi je vous dis
pas. C'est ce que je vous dis.
Combien de temps ? C'est 15 jours un stage ou c'est un truc
9 mois à 1 an.
D'accord.
Et ça coûte combien ?
Avant de vous parler du prix, je vais vous parler de ce que ça rapporte. C'est intéressant comme
méthode.
Mais les deux méthodes sont bonnes.
D'abord, on a besoin de recruter dans l'armée et dans la police. Mm-hmm. La police, parce qu'il va falloir recruter. Et donc, on a besoin aussi de soutien dans les services publics, dans l'éducation nationale, services civils. Garçons, filles, obligatoires, civils et militaires.
Et militaires.
Donc, ceux qui veulent...
Un peu comme la SNU qui existe aujourd'hui, sauf que ça sera...
Ceux qui veulent aller faire le service militaire, font le service militaire. Ceux qui veulent un service civil, eh bien, il y aura une formation et... Ensuite, comme des classes, et ensuite ils iront se répartir dans les services publics, les hôpitaux, les EHPAD. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide, tout simplement. Dans les coopératives agricoles.
Mais je vous dis pas qu'on a besoin d'aide. Je vous dis qu'ils ont peut-être pas envie d'y aller quand on voit la population de cet âge-là.
Ben écoutez, je crois pas moi qu'ils auraient cette réaction. Je pense qu'au contraire, ils vont apprendre. À se connaître. Les Français ne se parlent plus, ne se connaissent plus, ils vivent
enfermés. C'est ça, l'enjeu, c'est de faire société.
Alors, on a les, vous savez, les quartiers de riches, les quartiers de pauvres, les écoles de riches, les écoles de pauvres. Donc,
le brassage du service militaire.
Et puis maintenant, on a l'algorithme, vous savez, le tribal, où on reste entre soi. Bon, donc, nous avons besoin de refaire ciment et de mettre en mouvement le mot de fraternité. Donc, c'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je suis certain que les enfants de toute catégorie sociale auront envie d'apprendre un métier qu'ils n'ont peut-être pas pu faire à l'école, de découvrir d'autres compatriotes, de se mélanger socialement, et puis, de réfléchir sur ce qu'est la France et ce que nous devons faire. Par exemple, envoyer des jeunes garçons ou des jeunes filles dans l'administration des eaux et forêts pour aider à la reconstitution de la biodiversité. D'accord. C'est un projet national. Alors, ça va coûter 3 milliards.
D'accord.
Alors, et ça, je trouve que c'est de l'argent.
Juste une réponse sur les étudiants en médecine.
On va essayer de.
Les étudiants en médecine. D'office, vous les envoyez en Lozère.
C'est-à-dire qu'on va garder le talent de tous ceux qui font des études. Ils feront leur service national une fois leurs études terminées, s'ils le souhaitent. Ils demanderont le sursis, ils l'auront. Et là, eh bien, ils rempliront le service national. Donc, j'enverrai, c'est vrai, volontiers les étudiants de médecine ils sont étudiants faisant leur service national dans les déserts médicaux.
Arnaud Montebourg, une question de Karine Bécard, puis de François Fressoz, et après, on bascule sur la dernière partie de l'émission.
Vous dites 3 milliards, donc, le service national.
C'est notre maquette financière.
À peu près.
Elle est à affiner.
Non, mais c'est intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de chiffres et c'est quand même une partie importante. Vous dites, voilà, il faut rouvrir des usines en France, il faut qu'elles reviennent. Les fonctionnaires, il faut mieux les payer. On n'a pas encore parlé de d'écologie, mais vous dites aussi, il faut arrêter avec les chaudières à fioul, donc il va falloir aider les gens à acheter des pompes à chaleur. Bon, vous l'avez chiffré, votre programme? On monte à combien?
Pas encore. Pas encore, d'abord parce que je vais distinguer ce qui relève de l'investissement. L'investissement, c'est ce qui rapporte. Donc, c'est des recettes.
À plus ou moins long terme.
Oui, à plus ou moins long terme, voilà. Quand on va remonter l'industrie de la pompe à chaleur, la filière bois, tout ça, ça crée des emplois, ça crée des recettes. Hein, et des recettes que nous attendons, y compris pour les régimes de retraite, par exemple, pour l'assurance chômage, pour la maladie, bref. En revanche, le fonctionnement... courant de l'État, ça fait le service national en fait partie. Ça, c'est certain que il faudra le chiffrer. Ce que je voulais vous dire, par exemple, si on met en regard 3 milliards, ce que coûte le service national, 3 milliards sont les dividendes que les sociétés concessionnaires d'autoroutes se versent à elles-mêmes et qu'on va récupérer pour le budget de l'État chaque année. Donc, vous voyez, ça reste quand même des choses. Quand on donne un ordre d'idée à nos compatriotes qui nous écoutent, ce sont des choses réalisables. Et que nous
donc la dette
faire.
Ne s'envole pas, ce ne sera pas la banqueroute.
Ah ben la dette, elle a explosé les compteurs, Madame Bécard.
Justement.
500 milliards de dettes Covid. D'ailleurs, on nous dit qu'il faut la rembourser. Moi, je ne sais pas comment, parce que c'est assez inhumain comme processus. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les plans d'austérité sur le plan européen commençaient à se repréparer. Donc 500 milliards de dettes Covid, j'ai fait les comptes, en 25 ans... C'est 25 ans d'augmentation de près de 37% de l'impôt sur le revenu.
Donc il faut l'annuler.
On ne rembourse pas la dette intégralement. On fait rouler la dette, on rembourse les charges d'intérêt.
Voilà.
Et
donc,
pour l'instant,
voilà,
elles
Madame
sont
Ben Saïd
de moins en moins lourdes.
Me donne la réponse à mon programme. On va perpétualiser la dette. Donc on va faire sortir la question de la dette. Voilà, Madame Bécard a obtenu réponse par Madame Ben Saïd.
C'est beau. Pas d'annulation en tout cas. Donc c'est ça que vous dites. Pas d'annulation de la dette.
Bah, la perpétualisation, ça revient à la mettre dans les comptes de la Banque centrale.
C'est ce qu'on est en train de faire.
Françoise Fressoz.
Dans votre défense de la République, vous mettez aussi la laïcité. Et une défense de la loi de 1905 assez offensive, parce que vous dites, au fait, cette loi de 1905 nous permet de traduire en correctionnel les imams qui appellent à désobéir à la loi, traduire en correctionnel les prédicateurs, voilà. Vous pensez qu'on n'en fait pas assez dans la lutte contre l'islam ? islamisme radical?
Ah, moi, je crois que la question, c'est pas l'islam. L'islam est parfaitement compatible avec la République. Je crois qu'il y a des agitateurs islamistes qui font de la politique en utilisant l'islamisme. Et donc, la République doit se défendre. Pourquoi j'ai utilisé la loi de 1905 et son fameux article 35? Parce que en 1905, dans les années qui ont suivi, il y a eu des querelles très très fortes avec le clergé en France. Et à l'époque, Aristide Briand, président du Conseil, qui a sa statue devant le Quai d'Orsay, poursuivait les évêques et même les cardinaux devant les tribunaux correctionnels et faisait condamner. Et l'évêque de Cahors, en 1909, avait exclu des sacrements des professeurs qui enseignaient avec des manuels réprouvés par l'Église. Il a été poursuivi et condamné.
Il faut en arriver là, aujourd'hui?
Bien sûr, puisque vous avez aujourd'hui des agitateurs qui essaient d'utiliser ou de séparer nos compatriotes musulmans, qui ont la liberté du culte garantie dans notre pays, séparés de la République.
Alors Darmanin fait bien, en fait, la loi séparatisme.
En tout cas, je considère là-dessus, que ce doit être une politique, pour moi, transpartisane, c'est-à-dire un des points sur lesquels où nous devons défendre la République. La République, elle n'appartient pas à Monsieur Montebourg, à Monsieur Tartampion ou Madame Tartantule. Elle appartient à tous les Français.
Mais est-ce que vous estimez que la gauche a attendu trop longtemps pour la défendre?
Je n'estime rien du tout. Je suis un républicain social, très engagé, et qui considère qu'elle doit être défendue.
France Inter. Question politique.
Arnaud Montebourg, pour terminer l'émission, j'aimerais vous faire écouter les propos de quelqu'un que vous connaissez très bien. On est en 2013, il parle de vous. Vous êtes alors ministre de l'économie de François Hollande.
Comme nous, il est pour la 6ème République. Comme nous, il est contre la finance. Comme nous, il n'accepte pas la politique d'austérité. Mais il a fait un autre choix, qui est de dire, tactiquement, je vais aller dans le gouvernement et je vais peser. Je lui dis, nous sommes avec toi chaque fois que tu défendras l'emploi. Et si François Hollande le vire du gouvernement, eh bien, il sera le bienvenu dans le front de gauche, à la place éminente à laquelle il peut aspirer.
Alors, François Hollande, depuis, vous avez effectivement, je ne vais pas virer, en tout cas, vous êtes parti du gouvernement, on va pas revenir sur l'histoire. Est-ce que ce qui était vrai en 2013, c'était évidemment Jean-Luc Mélenchon, l'est toujours aujourd'hui? Est-ce que vous êtes compatible avec lui, vous pouvez travailler ensemble, et la main qu'il vous tendait à l'époque, vous l'attendrait-il aujourd'hui?
Et moi, je suis attentif aux compliments qui viennent de toutes parts. Et je dois vous dire que j'ai entendu Madame Le Pen dire qu'elle voulait que je sois dans son gouvernement. Monsieur Bertrand a dit que j'étais formidable. Madame Hidalgo a dit qu'elle voulait m'embarquer. Je cite.
Ça vous a plu, ça.
Est-ce que vous êtes embarquable?
Et je crains que non. Et Jean-Luc Mélenchon avait dit à cette époque qu'il me verrait bien son premier ministre.
Oui.
Pourquoi? Parce que mon camp, c'est la France. Et que tous les partis politiques de gouvernement, de droite et de gauche, dans les quatre quinquennats qui viennent de s'écouler, n'ont pas traité. D'abord, ont échoué. La France est affaissée, les Français se sont appauvris, et nous sommes entrés dans une période de dépendance extrêmement forte qui, moi, me désole à titre personnel et m'a amené vers cette candidature. Je dois vous dire que cet échec-là, le fait que beaucoup de sujets ne soient pas traités ou réglés, parce qu'on peut aussi le traiter dans le discours, ne jamais le régler dans les faits, m'a conduit à penser qu'il était nécessaire maintenant de mettre les idées que je défends et qui semblent être l'apanage de beaucoup de gens dispersés dans tous les échiquiers politiques, de les mettre moi-même au
point. D'accord, mais on ne va pas faire de la poésie. Là, pour l'instant, on est dans élection. Alors, on va faire une chose claire. Allez. On est dans une élection présidentielle. Vous êtes crédité de 4%. Anne Hidalgo est crédité de 4%. Jean-Luc Mélenchon, c'est aux alentours de 10. Laurence Rossignol, qui, si je ne m'abuse, est à vos côtés, était encore hier à Frangy, a dit que Jean-Luc Mélenchon était un obstacle pour la gauche en 2022. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, bien qu'il vous tende la main, ou alors qu'il vous tend la main depuis que vous avez été viré, comme il dit, du gouvernement?
Jean-Luc, je vais vous répondre. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner l'élection présidentielle.
Bon, donc il peut nuire.
Il ne peut pas gagner, il le sait lui-même.
Pourquoi vous dites
ça? Parce que, à cause de ses excès. D'accord. Tout simplement.
Dans quel domaine?
Je crois que les Français le savent.
Bah non.
Et vous aussi.
Bah dites-le.
Et donc, en conséquence de quoi? En conséquence de quoi? Et il y a un certain nombre d'éléments qu'il défend. Il défend la hausse des salaires. Mais j'ai vu que Monsieur le maire aussi suppliait les entreprises d'augmenter les salaires. La supplique n'est pas une politique. Hein, c'est, vous voyez, j'ai vu que Madame Pécresse, par exemple, qui, je crois,
deux fois et demi le speed,
défendait également des augmentations de salaire, et que le président du MEDEF défend les augmentations de salaire lui-même. Donc nous progressons. Donc je veux dire que on doit construire aujourd'hui un rassemblement.
Revenons
des
à Jean-Luc
Français
Mélenchon, avec qui vous pouvez bosser
le plus largement possible. Mais et vous ne me ferez jamais dire, même si vous me harcelez de questions sans que je puisse terminer une phrase, je dois vous dire que vous ne me ferez dire que rien de tout ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire un projet qui rassemble des Français. Je parle au peuple de France.
Mais c'est quoi la ligne politique ?
C'est une élection quand même, il faut bien avoir des gens, il faut bien se rapprocher. Vous parlez à Anne Hidalgo, vous parlez à Jean-Luc Mélenchon, vous réfléchissez à Xavier Bertrand. Je n'ai pas d'obsession à gauche ou à droite. Simplement, 4%, il va bien falloir être avec des gens. Si vous êtes au deuxième tour.
Écoutez, madame, il y a déjà, moi, je veux bien qu'on ait des sondages qui décident de l'élection 8 mois avant. Moi, je ne crois pas.
Mais je dis pas que c'est figé. Hein.
Bah non. Bah alors, bon, donc laissez-moi exprimer mon projet. Vous m'avez permis de le faire. Je vous en remercie. C'est un projet qui est un projet républicain et social. Je suis un homme de gauche, devenu entrepreneur. Mais je marche vers les Français, je me tourne vers la France.
Du souverainisme de gauche, on peut vous définir ?
Je ne suis pas un souverainiste, parce que je suis pour maintenir la France dans l'Alliance européenne, dans l'Union européenne. Je ne suis pas un souverainiste. Mais je défends la souveraineté de notre pays.
Un peu décliniste quand même.
Et vous voulez parler aux classes populaires, comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, notamment avec les hausses de salaire. On a parlé du SMIC, on a parlé des augmentations pour les fonctionnaires. Moi, je voudrais vous emmener sur les salaires dans le privé. Qui voulez-vous augmenter exactement ? Et quel est ce donnant-donnant là que vous avez envie de faire avec les entreprises ?
Écoutez, nous avons un problème avec les salaires. Et les chefs d'entreprise, j'en suis un. Moi-même, à la tête de mes petites entreprises.
Vous avez combien de salariés, rappelez-nous ?
Ben, on a, sur les 3 entreprises dans l'agroalimentaire, on est maintenant à plus de 20.
Et vous envisagez de les augmenter ou pas ?
Ben, ils sont bien payés, je crois. Et s'ils veulent demander des augmentations, ils ne se privent pas.
Vous avez un projet. Qui voulez-vous augmenter
Votre question est intéressante parce qu'ils demandent des augmentations de salaire. Et parfois, ils les obtiennent. Voilà. Alors, je voulais vous répondre parce que vous avez tous ceux qui sont en dessous du salaire médian. Mm-hmm. Hein, 2000 euros brut à peu près.
1500 net,
ouais. Ouais, à peu près 1500 net. Ça donne, franchement, les gens ne peuvent pas vivre. Quand on regarde les augmentations récentes, électricité, plus 17% en 3 ans, gaz, plus 50% en 10 ans, c'est électricité, plus 50% en 10 ans, gaz, 16% en 2 ans, essence, plus 20% en 1 an. Il y a 36% des Français qui déclarent des difficultés financières. 20% d'entre eux, c'est une enquête du Secours populaire, sautent des repas pour des raisons financières. Et vous en avez 30% qui n'arrivent pas à avoir une mutuelle santé, 32% qui n'achètent pas de fruits et légumes tous les jours. C'est intéressant parce que vous voyez qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Et on a retrouvé ça dans la crise des gilets jaunes, dans les cahiers de doléances. Je repense à cette dame qui avait dit « c'est si dur de vivre avec si peu », qui avait écrit avec sa main hésitante.
Mais comment vous allez convaincre les patrons ?
C'est vraiment là, on est au bout.
Je vais vous dire, quand je discute avec avec des patrons, ils disent « oui, il faut augmenter les salaires ». Voilà, ils le pensent. Ils le pensent, et d'ailleurs, je vais vous dire, on s'est mis dans la tête que le salaire était l'ennemi de l'emploi. Ben, il y a déjà tous les emplois non pourvus, il y en a 215 000 selon la DARES. Ils vont peut-être trouver, ils vont trouver un emploi.
Vous allez supprimer des cotisations patronales ?
Je suis favorable au transfert des cotisations sociales vers des cotisations sur la valeur ajoutée qui cesseront de taxer en quelque sorte ou faire seulement cotiser les salaires, l'emploi, l'embauche. Et c'est une méthode qui vise, c'était un projet d'ailleurs qui avait été expertisé par exemple l'OFCE, qui expliquait que en soulageant les industries ou les services qui emploient beaucoup de main-d'œuvre et en rendant neutre en quelque sorte le financement de la protection sociale, cela permettrait de créer 700 000 emplois.
Merci. Merci Arnaud Montebourg. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions malgré l'inanité de Françoise Fressoz et mon manque de rigueur.
Désolé,
je plaisante en disant
c'était pas
cela.
C'était sans propos.
Merci de nous avoir écoutés sur France Inter, nous avoir regardés sur France Info. Merci aussi à Alexandre Gilardi et à Jean-Philippe Ballas pour la préparation de l'émission. On se retrouve toute la bande ensemble dimanche prochain pour un nouveau Question Politique.
Merci à vous.